le monde au féminin.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des dossiers et reportages concernant les femmes et la jeunesse.
C'est dans la presse.
Première condamnation pour excision au Royaume-Uni le 1er février 2019. En effet, la cour criminelle de l'Old Bailey à Londres a condamné une Ougandaise pour une excision commise sur sa fille de 3 ans. L'excision est illégale depuis 1985 au Royaume-Uni, mais aucune condamnation n'avait été prononcée jusqu'ici. En 2017, les parents avaient amené l'enfant en sang à l'hôpital en affirmant qu'elle s'était blessée. Un chirurgien avait conclu que la petite fille avait été mutilée au scalpel. Alan Davis, en charge des questions relatives à l'excision au sein de la police londonienne, a déclaré souhaiter que cette condamnation puisse avoir un effet dissuasif. Un progrès salué par les militants des droits humains, mais reste à savoir pourquoi aucune condamnation en 34 années de loi en vigueur, bien que mieux vaille tard que jamais. Pour rappel, l'excision est passible de peine de prison dans plusieurs pays. La France a notamment prononcé plusieurs condamnations depuis quelques années, dont celle d'un couple d'origine guinéenne en 2012. Pour l'excision de leurs 4 filles, le père avait été condamné à 2 ans de prison ferme et la mère 18 mois. Alors que la plupart des pays africains tendent à interdire l'excision, elle est encore largement répandue en Afrique et en Asie. Une lourde tâche à accomplir, sachant que le seul continent où elle n'est pas pratiquée est l'Antarctique.
Paroles de femmes.
À 57 ans, Massata Cissé est quasiment la seule camionneuse en Afrique de l'Ouest. Surnommée Mama Africa, cette conductrice de poids lourd a transporté des centaines de tonnes de marchandises dans la région durant près de 30 ans. Notre correspondant Lamine Traoré a eu l'honneur de rencontrer cette dame exemplaire, véritable incarnation de l'émancipation de la femme en Afrique de l'Ouest.
Massata Cissé, 57 ans. Elle a déjà transporté plusieurs centaines de tonnes de marchandises dans presque tous les pays de la sous-région. Entre elle et le camion, c'est une histoire de passion qui défie les ans et les circonstances.
J'étais avec le vieux quand j'étais plus jeune. Et c'est avec le vieux que j'ai aimé ce travail-là. Je conduis depuis 28 ans, hein. Je suis pas la seule, il y a une à Lomé, mais pour le moment, elle ne conduit plus. Sinon, en Afrique de l'Ouest, je suis seule.
Travaillant dans une cimenterie à Ouagadougou, elle est la seule femme sur près de 600 conducteurs qu'emploie la société.
Une femme qui se démarque à son âge pour parcourir de longues distances avec des hommes tout autour, pour nous, ça ne peut être que louable pour l'image vraiment de la femme.
Mama Africa impressionne plus d'un. Omar Koulibaly est chauffeur dans la même société. Il refuse de dire que Massata Cissé est une simple collègue.
C'est ma patronne. C'est elle qui m'a appris à conduire.
La conductrice est sans complexe. Elle a un conseil à donner aux autres femmes. Au soir de sa retraite, elle a encore des projets.
Toutes femmes n'ont qu'à avoir le courage pour apprendre quelque chose. Je demande une aide. Si on peut m'aider à avoir un camion pour que je travaille pour payer. Et puis, si je peux vraiment avoir une aide, avoir une association, former les femmes.
Massata Cissé se présente comme l'incarnation de l'émancipation de la femme. Avec elle, il n'y a pas de métier pour femme ni pour homme. Il faut simplement se battre pour s'en sortir dans la vie.
À bon entendeur, c'était un reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Lamine Traoré. L'entrepreneuriat social gagne du terrain en Afrique subsaharienne, notamment sur les questions d'environnement. De nombreux jeunes, conscients des carences de leur gouvernement, créent des start-up environnementales comme Mariam Keïta, directrice de Binedou Global Service à Conakry, engagée depuis 2017 dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques pour la fabrication de briques. Notre correspondant Zakaria Camara est allé à sa rencontre.
Il n'est pas rare de voir Mariam et ses collègues marcher dans les quartiers de la haute banlieue de Conakry à la recherche des plastiques. Les mains dans les gants, les bottes aux pieds et les nez couverts, elles passent d'une poubelle à l'autre. Mariam Mohamed Keïta, directrice générale de Binedou Global Service.
Cette étape consiste à la collecte des plastiques. On a besoin de tout plastique pour les mettre dans le sac et les envoyer dans l'atelier.
Les trois femmes plastiques, comme on les appelle, reviennent à l'atelier, les sacs pleins. Il faut dépoussiérer les plastiques, les peser, ensuite les mettre dans une cuve posée sur le feu de bois. 20 kg de plastique et 10 kg de sable sont mélangés pour obtenir une matière noire qui sera ensuite coulée dans des moules. Chaque brique fabriquée est une réponse qu'apporte la directrice générale de Binedou Global Service aux nombreuses questions des Guinéens.
La recherche de mon premier emploi m'a mené à visiter bon nombre de rues de Conakry. Après analyse, j'ai constaté que le recyclage de ces plastiques peut répondre à plusieurs défis, dont entre autres la protection de l'environnement, la fourniture des pavés et des briques aussi aux entreprises de construction et beaucoup d'autres.
Près de 500 000 tonnes de déchets plastiques sont produites par an en Guinée, selon les chiffres officiels. Ces déchets sont abandonnés à l'air libre, sans aucune politique de collecte, de transport et de recyclage. 9 mois après sa création, l'entreprise de Mariam peine à produire en grande quantité. Elle n'a pu produire et vendre qu'un peu plus de 500 mètres carrés. Malgré tout, Mariam n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.
Nous avons besoin de machines pour vraiment nous soulager un peu. Parce qu'avec la main, la manière dont nous faisons comme ça manuellement, c'est un peu fatigant. Mais si nous avons aussi des machines avec nous, qui font le broyage et puis encore le mélange, ça serait un peu possible. Vraiment, ça nous aidera.
À Conakry, on produit par jour plus de 1200 tonnes d'ordures de toute nature, dont les déchets plastiques. Une partie de ces déchets est souvent drainée vers la mer par manque d'entreprises en charge de collecter les ordures dans les communes urbaines.
C'était un reportage de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, sur l'activité de Mariam Keïta, directrice de Binedou Global Service à Conakry. Jeune mère de 2 filles, Mariam a été mariée à 14 ans. À l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille en 2018, elle avait déclaré « Nous, femmes et filles, devons participer au développement de notre pays et jouer un rôle transformateur ». Elle avait notamment encouragé les filles victimes de mariages et de grossesses précoces ou de toute autre difficulté en ajoutant, je cite, « J'ai eu le courage d'aller de l'avant et de saisir les opportunités. Nous devons avoir de grandes ambitions et travailler pour y arriver ». Mariam souhaite professionnaliser son entreprise.
Si jeunesse pouvait.
Dans la capitale burkinabé, des milliers de personnes, y compris des enfants, travaillent dans une carrière de granit ouverte depuis 20 ans. Un travail extrêmement pénible, dangereux et nocif pour la santé, effectué sans minimum de protection avec un salaire dérisoire. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré, s'y est rendu.
Quartier Pissi, sortie ouest de Ouagadougou.
Nous sommes sur une carrière de granit. Femmes, hommes, enfants, tous travaillent ici. D'un côté, des hommes cassent de gros blocs de granit. Et de l'autre, des femmes et des enfants sous des hangars de fortune les réduisent encore plus petits pour en faire du gravier. Il les transporte ensuite hors de ces grands trous creusés depuis plus de 20 ans. Un travail pénible, reconnaît Jean-Baptiste Gibila, qui travaille dans cette carrière depuis l'an 2000.
On se débrouille. Le travail, en tout cas, c'est dur, mais courir chercher le pain quotidien, c'est mieux. Souvent, il y a des blessures, des accidents de travail. On a besoin quand même un peu d'aide.
Aminata Sana a fait 8 ans dans la carrière. Elle n'a plus envie de faire ce travail, ni aucun de ses 5 enfants.
Cela fait 8 ans que je fais ce travail. Je gagne un peu, ce n'est pas facile. J'ai 5 enfants, mais ce n'est pas simple. Je ne veux plus faire ce travail. Si je gagne un autre travail, je le ferai. Quand tu fais ce travail toute la journée, la nuit, tu as tout le corps qui fait mal. Je ne prie pas Dieu qu'un de mes enfants fasse ce travail.
Sur le site, de la fumée et de la poussière se dégagent en permanence, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé de ces personnes. Docteur Rizgou Ouédraogo est médecin pneumologue au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo.
Évidemment, ces personnes sont vraiment exposées à des pathologies respiratoires très graves. On parle de pneumoconioses, qui sont des pathologies respiratoires dues à l'inhalation de poussière minérale. Ces patients, au bout de 10 ou 20 ans, vont présenter des difficultés à respirer, également aussi des infections pulmonaires à répétition dues à l'inhalation de ces poussières minérales. On en reçoit généralement qui viennent avec un stade déjà avancé, au stade d'insuffisance respiratoire chronique, avec des complications au niveau cardiaque, puisque par la longue, il y aurait un retentissement au niveau cardiaque. Ces patients sont obligés d'être sous oxygène en permanence et généralement la prise en charge est difficile, voire honorée pour ce type de patients.
Selon les témoignages, au moins 4000 personnes sont sur ce site de granit. Ces populations extrêmement démunies cherchent le minimum pour vivre, au risque de leur vie. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Mais oui, et si la jeunesse pouvait?
Les femmes et les jeunes sont de plus en plus sollicités dans les programmes de développement en Afrique subsaharienne, car ce sont les grands oubliés de bien des gouvernements, selon Amata Sango Diabaté, économiste principal du PNUD, qui couvre principalement le Niger et le Burkina Faso. Dans cette interview d'Ekia Badou, elle parle de l'intégration africaine qui ne pourra se faire sans eux et sans politique de transformation des produits, souligne-t-elle.
Tant qu'on ne fait pas cette transformation et la création de chaînes de valeur qui est aussi créatrice d'emplois, notamment pour les femmes et les jeunes qui en général sont laissés pour compte dans beaucoup de nos pays, on ne peut pas bénéficier de l'intégration africaine. Ce sont les populations oubliées. Nous insistons pour qu'on formule les projets et programmes qui favorisent la création de chaînes de valeur, qui favorisent la formation professionnelle de ces couches oubliées d'une société. Et c'est dans ce cadre-là que nous faisons tout pour que l'investissement dans la transformation structurelle de l'économie et la création de chaînes de valeur se fasse.
Est-ce que vous pouvez partager avec nous une expérience concrète sur le terrain que vous avez pu mener au Burkina ou au Niger?
Une expérience concrète dont je peux parler, c'est par exemple au Niger. Nous sommes en train d'aider le gouvernement qui a identifié comme un des piliers de son développement la renaissance culturelle. Pour qu'on se base sur les valeurs culturelles du pays pour faire la promotion de la femme, pour valoriser le travail de la femme, pour augmenter les droits de la femme. Donc nous sommes en train d'aider le Niger pour la formulation d'indicateurs qui peuvent vous aider à mesurer le progrès. Comment est-ce que dans le petit village du Niger, on va donner plus d'importance au travail de la femme, à l'éducation de la fille, pour qu'elle puisse être autonome, pour qu'elle puisse être productive et pour qu'elle puisse ajouter au développement du pays. Et à son propre développement d'abord, ensuite au développement du pays.
C'était Amata Sango Diabaté, économiste principal du PNUD basé au Niger.
Entre parenthèses.
Des femmes qui visitent régulièrement la prison civile de Lomé au Togo se plaignent du traitement qui leur est réservé. Elles disent ne plus supporter certaines fouilles et parlent d'humiliation, tandis que l'administration pénitentiaire affirme avoir été contrainte d'adopter ces nouvelles mesures. Notre correspondante Kay Lawson nous en dit plus dans son reportage.
Au niveau de la fouille des femmes, on nous a demandé de nous mettre nus, d'enlever totalement nos habits jusqu'au soutien-gorge, au slip. Et les surveillantes pénitentiaires nous ont touchés. J'ai senti une grande humiliation. Je n'ai pas arrêté de verser des larmes parce que je me suis sentie vraiment, vraiment, vraiment humiliée.
Kimi visita.
Lorsque nous sommes venus à la visite, nous n'imaginons pas que c'était aussi grave. Le premier jour, on m'a fait le doigté. Les agents femmes qui font la fouille portent des gants, mais ce sont les mêmes gants qui sont utilisés pour toutes les visiteuses. Je suis écœurée. Venir et se mettre totalement nue, nous ne sommes pas à l'hôpital. Même si les fouilles ont été allégées dans la journée du mardi 4 décembre, le régisseur de la prison civile de Lomé explique les raisons qui ont poussé l'administration pénitentiaire à avoir recours à ces mesures draconiennes. Gma Kanini Kabo, régisseur de la maison d'arrêt de Lomé.
On est souvent surpris de voir des objets que les femmes se permettent d'introduire dans leur appareil génital. Mais la dernière fois, il y a encore eu un cas où la personne a réussi à franchir la porte. Et c'est dans la transmission de l'objet dans le parloir qu'on s'est rendu compte. Un emballage bien filé de cannabis. Cela suppose que ceux qui étaient à la fouille là n'ont pas bien fait leur travail. On a accusé ces éléments de laxisme dans leur service qu'on a été obligé de faire cette fouille systématique.
Pour cette défenseure des droits de la femme, aucune raison ne peut justifier ces pratiques qui dénigrent la femme et portent atteinte à sa dignité. Michel Agué, secrétaire général du groupe de réflexion Femmes, Démocratie et Développement GF2D.
C'est un choc. Rien ne peut justifier le fait qu'on puisse faire ce genre de contrôle, toucher les parties intimes des femmes, aller jusqu'à l'intérieur de leur intimité pour des questions de sécurité. Il y a d'autres moyens de détecter les substances frauduleuses, les substances toxiques. Il y a d'autres moyens qu'on peut mettre au sein de ces unités pour pouvoir assurer la sécurité au sein de la prison que de bafouer ainsi la dignité de la femme.
À en croire le régisseur, des tractations sont en cours pour équiper la maison d'arrêt de Lomé de matériel de détection de produits interdits. Nous retrouvons Gma Kanini Kabo.
Il faut un équipement adéquat pour éviter tout cela. Nous savons que ça se fait dans les aéroports, même dans les hôtels. On a des équipements nécessaires. On n'a pas besoin même de vous déshabiller. On a tout ce que vous avez sur vous. Il suffit de doter ces éléments de ces équipements. Le problème est résolu.
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En Afrique, le phénomène du blanchiment de la peau continue malgré les mises en garde des experts médicaux contre les risques pour la santé. Rien qu'au Nigeria, près de 77% des femmes utilisent régulièrement des produits éclaircissants selon l'OMS. On fait le constat avec Blanche Sanou.
Comme un rituel, chaque matin, Adjoki utilise sa crème éclaircissante avant de se rendre au travail. Elle a commencé l'utilisation de ces produits il y a 7 ans. Au fil du temps, sa peau est devenue irritée et des taches sombres y sont apparues. Elle a moins de 40 ans, même si aujourd'hui elle semble beaucoup plus âgée. Mais selon Adjoki, son teint est beaucoup mieux qu'avant.
Cette crème est bonne parce que si vous en utilisez une autre, vous pouvez avoir des coups de soleil. Depuis que j'ai commencé à utiliser ce produit, les gens m'ont fait des compliments. Ma peau n'est ni trop foncée ni trop claire, je garde mon teint naturel.
En Afrique, le blanchiment de la peau est en plein essor. Les femmes et les hommes achètent des crèmes qui éclaircissent la peau en réduisant la production de mélanine. Le prix d'un pot de crème varie de 2 à 50 euros et on en trouve partout sur le continent.
De la classe la plus pauvre à la classe moyenne et la classe riche, bon nombre d'entre elles blanchissent leur peau. Lors de ma dernière recherche, j'ai découvert au marché que 6 personnes sur 10 décapent la peau.
De nombreux pays ont interdit les crèmes, dont certaines contiennent des ingrédients nocifs. Mais la forte demande a conduit à un marché noir qui est presque impossible à réglementer. Et dire que les effets secondaires peuvent être graves, incluant même le cancer.
Vous commencez à affecter non seulement les couches supérieures de la peau, mais vous affectez aussi les couches profondes, à tel point que tout le processus est inversé.
Les autorités de certains États africains utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour publier des messages préventifs et avertir des dangers de ces produits cosmétiques. Également, des mouvements croissants de fierté noire en faveur de la beauté naturelle tentent de changer les perceptions.
La stérilité est considérée comme un tabou dans plusieurs sociétés africaines. C'est le cas au Nigeria, où malgré le conservatisme religieux, de nombreuses agences proposent des mères porteuses aux couples qui peinent à concevoir un enfant. Saloua Djafari nous en dit plus sur ce business en pleine expansion, profitant notamment des femmes victimes de la pauvreté.
Chaque matin, Toyin prépare ses enfants pour l'école. Une bénédiction à laquelle elle avait presque renoncé à croire il y a quelques années. Ses deux enfants sont nés à l'aide d'une mère porteuse indienne. 12 années de lutte contre le cauchemar des fibromes utérins l'ont amenée à opter pour cette solution. Aujourd'hui, elle souhaite donner cette même opportunité à des couples en difficulté. Toyin a ouvert son agence Precious Conceptions, Conception Précieuse.
La maternité de substitution existe au Nigeria et lorsque vous le faites légalement, vous signez les documents nécessaires, vous obtenez un avocat, vous contactez un organisme comme le nôtre qui vous guide tout au long du processus. Vous êtes en sécurité, l'hôpital vous donne le bébé directement.
Au Nigeria, il n'existe pas de loi qui régule la maternité de substitution. Ce n'est ni autorisé ni interdit. Ada est mère porteuse, elle a reçu près de 100 000 euros et un toit pendant sa grossesse en échange de ses services.
J'aurais donné ma vie pour avoir un chez-soi, parce qu'à ce moment-là, la cour allait jeter ma famille à la rue.
Dans un pays conservateur tel que le Nigeria, la maternité de substitution est désapprouvée par les chrétiens évangéliques et par les imams. Quant à l'infertilité, elle est souvent perçue comme une punition divine. Pourtant, le phénomène des mères porteuses est en plein essor.
Les chiffres des 2 dernières années ont vraiment augmenté. Nous n'avons pas seulement des résidents du Nigeria, nous avons beaucoup de demandes de Nigérians vivant en Europe et des Nigérians vivant aux États-Unis.
Mais louer les services des mères porteuses n'est pas à la portée de toutes les bourses. Beaucoup se tournent vers l'adoption ou vers ce qu'on appelle ici les usines de bébés, où les enfants non désirés sont placés en adoption.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'était Nathalie Barge avec vous dans Le Monde au Féminin. Le Monde au Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Aussi sur notre site internet, visitez voafrique.com/LMF pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. On reste en contact. À très bientôt.
Arrête.